finalement, on écrit avec des matériaux très pauvres et des émotions très pauvres.
Antonio Lobo Antunes.
Apparemment, on travaille avec des déchets, quoi. Et ça, c'est miraculeux. Comment peu à peu, tout cela commence à trembler, à se mouvoir, à vivre. Ça, c'est en même temps l'immense joie et la fascination de la création.
Ça peut pas faire de mal.
Parce que les mots, ils sont... Un dictionnaire est un cimetière, c'est le Père Lachaise. Les mots, ils sont là, couchés, les yeux fermés, les mains croisées sur le ventre. Et pourtant, vous cherchez ces petits cadavres, et ça commence à vivre, à bouger, et tout ça. C'est extraordinaire comme expérience.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal.
Toute ma vie, j'ai dormi accompagné. J'ai commencé par un berceau enrubanné de tulle près du lit conjugal dont le matelas était creusé par deux cuvettes longitudinales, l'une à la mesure de ma mère et l'autre plus grande de la taille de mon père, dans lesquelles il s'allongeait tout raide le soir comme un stylo et un porte-mine par cœur dans le sillon de leur étui. Du berceau, je suis passé à la chambre des servantes qui, à l'instar des saintes, n'avaient que leur prénom, comme pour s'affranchir de la pesanteur terrestre d'un nom de famille. Texera, Mendes ou Brito, lesquels s'accordent mal avec le paradis. Aujourd'hui encore, quand j'entends certains prénoms, Epifania, Jacinta, Felicidad, Candida, Albertina, je ne sais pas si l'on me parle de sainte ou de cuisinière. De la chambre des servantes, je suis passé à une chambre partagée avec mon frère Federico, qui prenait très au sérieux les équations du second degré, le réseau fluvial du Vouga et les compléments indirects, pendant que moi je me penchais à la fenêtre du jardin pour reluquer la filleule du boulanger, sirène familière des petits pains que mon bâtard n'impressionnait absolument pas. Le résultat était prévisible, mon frère est devenu un important gérant. La filleule du boulanger s'est mariée avec un caissier de banque. Elle a prospéré en kilos et en bagues et habite à Ginja. Et moi, je suis toujours à la fenêtre à attendre que les jours d'antan reviennent dans la paume de ma main comme de fidèles boomerangs. Dans le fond, le temps n'a pas passé. Si je colle l'oreille à mon enfance comme à un coquillage, j'entends une mer de jours ensoleillés et de rires de cousines en bikini, ajournant ma mort et m'accordant l'espérance. Cet amoureux inconsolable est l'enfant terrible et le monstre sacré de la littérature portugaise actuelle. Il s'agit de l'écrivain Antonio Lobo Antunes. Psychiatre de formation, l'auteur s'est fait connaître au début des années 80 en publiant trois romans chocs qui dénoncent l'une des grandes tragédies de son pays, la guerre d'Angola, qui a duré 15 ans, de 1961 à 1975. Dans son premier livre, Mémoire d'éléphant, il revient sur son expérience de médecin militaire en pleine guerre coloniale. Un passé qui continue de le hanter dans les deux ouvrages suivants, Le cul de Judas et Connaissance de l'enfer. Né en 1942 dans la bourgeoisie de Lisbonne, le jeune médecin nourrit un lourd sentiment de culpabilité, celui d'avoir été du côté des bourreaux, envoyant de jeunes hommes au combat. Après avoir connu la guerre, l'écriture lui apparaît comme le seul moyen de rendre leurs lettres de noblesse à ces petites gens qu'il a le sentiment d'avoir trahis. Une écriture comme un seul souffle, avec peu de ponctuation, qui scande le poids des regrets. Ces lettres de noblesse composeront plus tard 5 volumes du Livre des Chroniques, commencé en 1998. Ce soir, ouvrons le second volume de ces chroniques, publié en 2001. Il s'intitule « Dormir accompagné » et il ressuscite tout un monde perdu, celui de l'enfance de l'écrivain à l'époque de la dictature de Salazar. Une époque où les servantes badinent avec les voyous du quartier et enfantent les révolutionnaires de demain. Retrouvons notre amoureux transi à l'âge adulte. Il est peut-être le personnage le plus touchant de cette galerie de portraits d'un autre temps. Ici, le chroniqueur des jours enfuis se fait volontiers poète. L'héritage de Pessoa n'est pas loin. Écoutons cette plume si particulière à Antonio Lobo Antunes qui croque à merveille ces gens humbles qui font la richesse de son enfance. Comme dans un dialogue intérieur avec lui-même, le narrateur ponctue son récit des impressions et des doutes qui le traversent. Voici une nouvelle d'une grande tendresse intitulée « Une goutte de pluie sur le visage ». Si je n'étais pas bègue, j'oserais lui parler. Elle habite 3 pâtés de maison plus loin. Nous prenons le même autobus tous les jours, moi au 4e arrêt et elle au 5e. Nous nous regardons l'un l'autre durant les 20 minutes. Une demi-heure lorsqu'il y a beaucoup de circulation. Du trajet qui sépare notre quartier du ministère, elle travaille 2 étages au-dessus du mien. Nous prenons le même ascenseur sans nous quitter des yeux. Parfois, il me semble qu'elle me sourit. Je suis presque sûr qu'elle me sourit. On se voit de loin au self, chacun avec son plateau. Je jurerais souvent qu'elle me fait un signe, m'invitant à sa table. Je n'y vais pas, car je ne suis pas sûr de ce signe. Pourtant, je crois bien qu'elle me fait un signe. Nos regards se croisent dans l'ascenseur une nouvelle fois. Elle me refait un sourire quand je sors. Elle me regarde de nouveau dans l'autocar du retour et je lui parlerai si je ne bégayais pas. Mais ce n'est pas tant le bégaiement. Comme les mots ne veulent pas sortir, comme je veux m'exprimer sans y parvenir, je rougis, les yeux exorbités. Je me suis regardé dans un miroir et c'est vrai. La bouche ouverte, pavée de dents, trébuchant sur une consonne interminable, remplissant l'air d'une tornade de postillons affolés. Et je ne veux pas qu'elle remarque tout ce ridicule, comme je deviens laid, comme je deviens physiquement un mascaron de fontaine crachant convulsivement de l'eau en un râle bulleux. Avec mes collègues de travail, c'est simple, je fais oui ou non de la tête. Mes réponses se résument à un geste vague, je transforme un discours en un froncement de sourcils, je réduis mes opinions à un haussement d'épaules. Même si je n'étais pas bègue, je continuerais à réduire mes opinions à un haussement d'épaules. Tandis qu'avec elle, je serais contraint de lui dire les choses, de lui chuchoter au creux de l'oreille, de la capturer dans un filet de phrases. Les femmes, me semble-t-il, aiment qu'on les capture dans un filet de phrases. Tandis que je lui prendrais la main, baisserais mes paupières, allongerais mes lèvres avec cet air infiniment niais des amoureux sur le point de s'embrasser. Et maintenant, mettez-vous à sa place. Et imaginez un bègue aux yeux exorbités qui s'approcherait de vous empourpré par l'effort, ouvrant et fermant la bouche, esclave d'une seule et même syllabe, tendant tout son corps pour délivrer un « je t'aime » qui ne s'échappe pas, qui ne parvient pas à s'échapper, qui ne s'échappera jamais. Un « je t'aime » qui reste prisonnier de ma langue, sous un bouchon de salive. Et elle me repousserait, se lèverait effaré, disparaîtrait par cette porte et je me retrouverais seul au café, tout pantelant, penché sur la tasse de thé au citron et le flan à la crème de ma débâcle. Je ne puis pas faire la bêtise de lui parler. Il est évident que je dois me contenter de ses regards dans l'autobus, de son sourire dans l'ascenseur, de son invitation muette à sa table, jusqu'au jour où je la verrai main dans la main, avec un Jules quelconque, peut-être plus vieux que moi, mais capable de lui chuchoter sans effort dans l'oreille. Il y a des gens qui chuchotent sans effort. Jusqu'au jour où elle cessera de me regarder, de me sourire, de m'inviter à m'asseoir à sa table pour déjeuner, et je la verrai au fond de l'autobus poser son front sur l'épaule d'un Jules quelconque, sans me voir, sans même m'accorder un regard, comme si je n'avais jamais existé. Et je comprendrai alors, ayant cessé d'exister, que je n'ai jamais existé. Et ce soir-là, lorsque je me regarderai dans la glace, je ne verrai personne, ou je verrai tout au plus 2 yeux, les miens, qui m'adresseront un reproche, une paire d'yeux où je suis sûr qu'une larme tremblera sur les cils et glissera lentement le long de ma joue, ou peut-être que ce ne sera pas une larme, mais seulement, car c'est l'hiver, une goutte de pluie. Vous savez ce que c'est ? Roulant sur la vitre.
Il faut que le livre soit rempli de silence pour que le lecteur puisse écrire aussi son livre à lui.
Antonio Lobo Antunes.
Parce que le livre, il existe seulement quand il est lu. Et un bon livre, à chaque fois qu'on le lit, il devient différent. On découvre de nouvelles choses. C'est une qualité rare, mais on tente d'y arriver. On fait tout ce qu'on peut, le mieux qu'on peut, c'est tout.
Découvrons à présent le quotidien d'un vieux couple. Si Antonio Lobo Antunes saisit avec beaucoup de tendresse les petits riens de l'existence, l'écrivain excelle aussi à rendre les situations les plus cruelles. Nous voici à la terrasse d'un café, en compagnie de 2 personnes âgées. Découvrons cette nouvelle au ton grinçant. Elle s'intitule « Ne meurs pas maintenant, on nous regarde ». Antero. Antero,
Antero, ne t'endors pas ici sur l'esplanade, Antero. Garde les yeux ouverts, ne glisse pas de ta chaise. Admire les jolis bateaux sur le Tage. Regarde les mouettes. T'as toujours tellement aimé les mouettes, Antero. Bois donc ta bière avant qu'elle ne soit tiède. Tiens-toi droit. Ne fais donc pas cette tête. Si tu ne voulais pas venir te promener à Algès, pourquoi ne pas m'avoir dit ce matin? Je sais que c'est dimanche, mais je n'ai pas envie d'aller à Algès. Et on n'en parlait plus. Nous serions restés à regarder pousser la plante du salon, comme tous les jours depuis que nous sommes à la retraite. Jamais je ne discute avec toi, n'est-ce pas? Jamais je ne proteste. Tu as acheté cet horrible canapé et je n'ai pas bronché. Tu as retiré de la commode la photo de ma sœur et je n'ai pas dit un mot. Je ne comprends pas ce que tu avais contre ma sœur. À chaque fois qu'elle nous rendait visite, tu te mettais à serrer les dents, à souffler, à tripoter les bibelots. Ne penche pas ta tête en avant, tu vas renverser ta bière. Ne mets pas ton coude dans cette coupelle de lupin. Ne te fiche pas de moi, Antero. T'as toujours été quelqu'un de sérieux. Ça fait des lustres que je ne t'ai pas entendu rire. Alors ne commence pas à faire le clown devant tout ce monde. C'est ridicule, Antero. Nettoie plutôt ce filet de bave à ton menton. Ne crache pas ton dentier, voyons. Ne me force pas à te le remettre dans la bouche. Des dents toutes blanches. Lorsque tu les enlèves le soir, tu sembles diminuer. Mais lorsque tu les replaces, tu fais plaisir à voir. Tu me rappelles un roi avec couronne et tout. Fais donc attention à ce dentier, Antero, ça coûte une fortune. Et ne te penche pas vers la dame de la table voisine. Son mari va le remarquer quand je vois toutes ces mouettes que tu ignores, Antero. Tous ces bateaux, le train de Lisbonne là-bas qui siffle et tout. Une belle journée. Et n'était cet enfant qui braille dans sa poussette, on serait au calme sur cette esplanade, Antero. Si c'est ce gosse qui te met dans cet état, nous pouvons tout de suite changer de table. Il nous suffit de prendre ta bière, tes lupins, mon jus de fruits, mon flan à la crème et d'aller plus loin, Antero. Sois pas si pâle. Arrête de trembler. Parle-moi. Je veux bien ranger ton dentier dans ma pochette, c'est entendu, mais parle-moi, Antero. Ça ne me dérange pas de te voir sans dentier si tu parles. Vois comme les gens nous regardent. Vis cette dame qui appelle du coude son mari en nous pointant du doigt, Antero. Toi qui n'as jamais aimé l'ostentation, Antero, que se passe-t-il? Toi qui exigeais que je porte mon gilet de laine sur mes décolletés. Qu'est-ce que c'est que ce dévergondage, Maria Emilia? Toi qui exigeais que je baisse ma jupe sur mes genoux quand je croisais les jambes. Tu te crois au cirque, Maria Emilia? Toi qui, quand j'étais allé chez le coiffeur pour teindre mes mèches grises, exigeais que j'y retourne le matin suivant. C'est carnaval, Maria Emilia? Et voilà que c'est toi qui attire à présent l'attention, qui glisse de ta chaise comme un gosse, qui fait des bulles roses avec ta bouche. Je pourrais te gronder, je pourrais perdre la tête. Tu te crois au cirque, Antero? Mais je n'en fais rien, je me conduis comme il faut, je te fais pas de scène, je te demande seulement de te tenir droit, rien d'autre. Ne laisse pas traîner tes doigts par terre, c'est sale, c'est plein de mégots, d'épluchures, de fientes, de pigeons, de papier, Antero, tu te sens bien, n'est-ce pas? Tu ne vas pas mourir, hein? Ne meurs pas maintenant, ce serait une honte. On nous regarde, je veux pas dire au serveur, excusez-moi monsieur, mais mon mari est mort. Attends au moins que nous soyons à la maison, ou tu t'éteindras si tu veux. Mais ici, Antero, ça fait mauvais genre. Quelle honte. Si tu veux mourir, fais-le sérieusement comme tout le monde en gémissant à l'hôpital. Monsieur Antero est mort sur l'esplanade, le nez dans les lupins, je vous dis que ça. Dis-moi donc si tu aimerais qu'on raconte la même chose de moi. Ah, le nez dans le flan à la crème, je vous dis que ça. Imagine le tableau, Antero. Un ancien chef de service, le nez dans les lupins. Lève-toi, immédiatement, fais-moi le plaisir de te lever, d'attendre que nous soyons à la maison. Il y a des bus toutes les 10 minutes, c'est pas la mer à boire. Après, tu pourras enlever ta veste, déboutonner ton col, te mettre à l'aise pendant que je réchaufferai le dîner. Plus personne ne te dira rien, promis.
Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne. A solidão.
incerteza de ti, a solidão.
Revenons du côté de l'enfance. Retrouvons notre personnage d'amoureux transi. À travers le souvenir d'un amour de jeunesse, le narrateur évoque les conditions de vie des plus défavorisés. Voici ses nostalgies d'Irénéia. As-tu encore les cheveux blonds, Irénéia ? Habites-tu encore la rue de l'école ? Portes-tu encore ces jupes vertes très courtes et ces patins blancs ? Tournes-tu encore en rond et en rond et en rond sur la patinoire de l'Académico ? Les bras levés au-dessus de la tête, sans un regard pour moi, sans un regard pour personne. Salues-tu encore quand la musique s'arrête, même s'il n'y a plus personne pour applaudir ? Je me souviens de toi dans la rue de l'école avec tes patins sur le dos, et je m'étonnais de te voir marcher comme tout le monde, de marcher comme moi, car il m'était difficile de t'imaginer en dehors de la patinoire. Tournoyant en rond et en rond et en rond, les bras levés au-dessus de la tête. Car il m'était difficile d'imaginer que tu avais une vie comme la nôtre. Travail, maison, dîner, maux de dents, grippe, facture du gaz. Il m'était difficile de t'imaginer au milieu de robinets qui fermaient mal, de plafonds qui goûtaient l'hiver, de disputes. Portes-tu encore cette petite jupe verte, Irénéia ? Gardes-tu encore ce petit air sérieux quand la musique s'arrête, avant de faire ton salut ? Sans un regard pour personne. Ton père était employé à la Caris, les transports publics de Lisbonne. Il a poinçonné mes billets des centaines de fois. Il s'appelait Monsieur Geraldo et il était chauve. Et ta mère a cessé les ventes sur le marché à cause de ses artères. Et je l'entends encore se plaindre à ma tante. « Les artères, c'est mon point faible, » donna Lucien. Et je trouvais étrange, je trouvais impossible que tu sois né d'eux. Et que tu habites dans un sous-sol de la rue des Écoles, un deux pièces aux fenêtres rasant le trottoir. Je trouvais étrange que tu vives avec M. Geraldo et la dame aux artères qui poussait son corps avec une canne et se lamentait que M. Geraldo devienne violent avec la bière. Il a même donné un coup de pied à notre petite fille, Donia Lucia. Elle a passé son après-midi à pleurnicher. Je trouvais cela tellement étrange, tellement impossible que pour moi tu n'existais pas rue de l'école, Irénéia. Tu n'existais qu'à la patinoire de l'Académico, où tu tournais en rond et en rond et en rond, avec cette petite jupe verte très courte et tes patins blancs, libéré des artères et des bières, saluant les applaudissements d'un public absent. Tu existais au-dessus de nous, dans ta solitude, éthérée, inaccessible, différente, affranchie de nos soucis et de notre manque d'argent. Tu voguais, les cheveux attachés par un ruban, tes cheveux blonds, Irénéia. Qu'es-tu devenue, Irénéia ? On raconte que tu as grossi, mais j'y crois pas. Que M. Geraldo est mort, que ta mère est morte, que tu habites le sous-sol de la rue de l'école avec un employé du téléphone, que tu souffres toi aussi des artères, que jamais plus tu n'as patiné à l'Académico, mais je n'y crois pas. Demain après-midi, j'irai te voir à la patinoire, car je suis sûr que, même après 30 ans, tu as encore les cheveux blonds, Irénéia, que tu porteras encore ta petite jupe verte, très courte, que tu tournoiras encore en rond et en rond et en rond, les bras levés au-dessus de la tête, et quand la musique s'arrêtera et que tu salueras sans un regard pour personne, si jamais tu aperçois quelqu'un sur les gradins en train de t'applaudir, ce sera moi. Je n'ai guère changé. J'ai certes un peu vieilli, mais je reste le même. Ce garçon bègue, avec une petite entaille à la lèvre, qui n'a jamais eu le courage de te sourire. Le neveu de Donna Lucia, qui assurait que je n'irais jamais bien loin à cause de mon pied beau et ce défaut d'élocution. Effectivement, je ne suis pas allé loin, mais je continuais à me rendre à la patinoire tous les dimanches, dans l'espoir de te voir tournoyer en rond et en rond et en rond, et de me sentir heureux. Restons encore un peu dans l'enfance et faisons connaissance avec la grande sœur du narrateur. Dans le texte suivant, Antonio Lobo Antunes évoque l'attente et la déception d'une jeune femme à travers les yeux d'un petit frère qui ne se doute pas du drame intime qui se joue. Nous voici à l'époque où les concours de beauté étaient très en vogue. Découvrons cette nouvelle au ton amer, la nuit des Miss. À 10 ans, la chose la plus importante dont je me souvienne, c'est l'élection de ma grande sœur, Detta, comme seconde dame d'honneur au concours des Miss de l'Estrala. J'avais jamais vu la salle des fêtes aussi belle. Avec le portrait du fondateur ornementé de guirlandes et de pompons en papier, les complices des ténèbres qui jouaient la rumba sur l'estrade en sautillant dans leurs petits souliers vernis, le faisceau bleu d'un projecteur braqué sur le batteur, un malchanceux qui ne trouvait jamais de petit ami car avant d'avoir pu démonter son instrument à la fin du bal, n'en finissant plus de dévisser plateau et caisse claire, ses autres complices des ténèbres avaient déjà disparu avec les plus jolies filles du salon de coiffure. Il y avait aussi Monsieur Porfirio, qui organisait les marches populaires, s'occupait des fiançailles et consolait les veuves à grand renfort de chuchotis romantiques. Au cours des matinées de l'Éden, il demandait le silence d'un geste de main transformé en mouette, frappait de son ongle le micro pour tester le son. 1, 2, 1, 2. Sa voix, dans un tonnerre sifflant de jugement dernier, appelait les concurrentes au nombre de 5 à s'avancer sur l'estrade, vêtues comme les actrices de cinéma sur les tablettes de chewing-gum. Et ma sœur, Detta, dans la jupe que ma mère et ma grand-mère ont mis presque un mois à faire, était la plus jolie de toutes. Pour dire la vérité, j'ai même eu du mal à la reconnaître. Au début, avec ses volants et ses colliers, je l'avais prise pour Mademoiselle Marilia, la petite amie du contremaître qui prenait souvent son thé à la Perola Vermilia, son caniche sur les genoux, impérial et solitaire, fondu dans un nuage de parfums, encens mystiques et autre chose moins avouable de mon adolescence. Puis en y regardant de plus près, j'ai bien reconnu ma sœur Detta, à ses ongles rongés. Mademoiselle Marilia les portait longs et gracieux. Et à la cicatrice sur sa joue qui la faisait surnommer Al Capone par ses collègues couturières. Une cicatrice dont aujourd'hui encore j'ignore l'origine, vu que ma sœur me court après la main brandie pour une claque vengeresse dès que je me hasarde à le lui demander. Mais pour l'élection de Miss de l'Estrala, ma mère et ma grand-mère lui avaient étalé tant de crème sur le visage qu'on ne remarquait plus rien. J'ai suggéré, avec toute cette chantilly, si on te plantait des bougies sur le front, tu ferais un beau gâteau d'anniversaire, Detta. Detta s'est mise à crier et ma grand-mère m'a menacé de sa mule. Monsieur Porfirio a présenté les concurrentes, très nerveuses, qui défilaient et tournoyaient un peu au hasard en butant les unes contre les autres, au son d'une rumba spéciale des complices des ténèbres qui les dévoraient des yeux. Hormis le batteur dont le jeu forcené des baguettes donnait l'impression qu'il détestait son instrument. Quand la musique prit fin, Detta et ses rivales s'alignèrent sur l'estrade. Le jury, c'est-à-dire les contremaîtres et le neveu du fondateur de l'Estrala, élimina d'entrée de jeu celle du milieu et celle de l'extrême gauche. Elles quittèrent l'Estrala en les insultant. Ma mère, gonflée d'orgueil et de soulagement, « Au pire, nous sommes sûrs de remporter un ruban et un bouquet de fleurs. » Il restait 2 coiffeuses et ma sœur, toutes 3 minaudant et souriant au jury, aussi pleine d'espoir que lorsqu'on se rend à Notre-Dame de Fatima. Et les coiffeuses, à cette heure, doivent s'y trouver puisqu'elles ont fini Miss et Première Dame d'honneur, toutes 2 parées d'une couronne et d'un sceptre. Et Detta a dû se contenter de quelques roses à demi fanées, d'un ruban guère plus épais qu'un fanion, avec la consternation de ma famille et les paroles de consolation des collègues. « Représente-toi au concours l'année prochaine, tu gagneras Al Capone. » Et ma joie autour d'elle. « Prête-moi ton ruban un petit moment, prête-moi ton ruban un petit moment, jusqu'à m'endormir dans les bras de ma grand-mère, bercée par une rumba. » Un soir, au cours d'un dîner, repensant à la nuit de l'élection, mon beau-frère a cessé de jouer de la batterie avec les complices des ténèbres pour devenir employé du gaz, m'a déclaré en pinçant avec tendresse les fesses de son épouse « Si Al Capone n'était pas resté en arrière à pleurer de rage, me laissant le temps de ranger mon instrument, je serais encore célibataire, Armando. » Mais je n'ai pas compris. Franchement, j'ai pas compris pour quelle raison ma sœur a planté sa fourchette dans ses doigts, s'est levée de table en courant et a claqué la porte de la chambre si fort que la photo de leur mariage s'est décrochée du mur, le verre s'est cassé en déchirant les jeunes mariés par le milieu et le cadre de marguerite en terre cuite s'est hélas brisé pour toujours sur le sol.
Il y a une chose très belle dans l'acte de publier. C'est peut-être la chose la plus importante. C'est les amis inconnus.
Antonio Lobo Antunes.
C'est ceux qui sentent que vous avez écrit pour eux. Moi, j'ai énormément d'amis inconnus. C'est-à-dire tous les écrivains que j'aime et que j'admire, ou les peintres, ou les musiciens. Je crois que l'art, c'est notre seule chance de survivre. Ça vous aide. Mais ça, c'est la dignité de l'écriture. Car il faut avoir une dignité et un sens éthique. D'ordinaire, on n'en parle pas. Mais pour moi, c'est avant tout un sentiment éthique.
Dans cet album de famille, découvrons désormais la personnalité hors norme d'un certain oncle Fernando. Vieux garçon, le narrateur vit avec sa mère dans un modeste appartement. Ils passent leur dimanche en tête à tête, elle à son tricot, lui perdu dans un étrange vague à l'âme. Voici une nouvelle au titre mystérieux. Tu m'apprends à voler. En hiver, quand j'ai envie de mourir, je vais chercher la collection de papillons dans l'armoire de ma chambre. Je pose les boîtes les unes à côté des autres sur la table du salon et je reste des heures penché sur ces insectes, indifférent à la pluie et à la tristesse des arbres. Ma mère, tout à son crochet, maugrait en comptant les mailles avec son ongle. J'aimerais bien savoir quel plaisir tu prends à ça. Mais comme elle déteste que je sorte, de peur que je me retrouve en mauvaise compagnie et que j'attrape des maladies de femme, elle préfère se taire plutôt que de me voir ranger les boîtes et descendre les escaliers pour me rendre à l'académie de billard. Donc, dès que le papier peint des sentiments commence à déteindre au fond de moi, je me précipite dans ma chambre pour en rapporter la collection de papillons de mon oncle Fernando, le frère de ma mère qui est mort d'une rupture d'anévrisme il y aura 3 ans en janvier. Il était célibataire, comme moi, mais vivait seul. Et de temps en temps, le samedi, comme nous habitions près du terrain de foot, il venait avant les matchs déjeuner avec nous. À la fin du déjeuner, pendant que ma mère lui servait le café, il me demandait avec un sourire que je n'ai jamais compris « Tu m'apprends à voler ?» Et moi, prenant un air idiot, je le trouvais un peu fou. Ma mère se méfiait de tout. « Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Fernando ?» Mon oncle Fernando, d'un air convaincu, ses petites lèvres allongées tel un bec pour ne pas se brûler et sa main plaquée contre sa poitrine pour ne pas salir sa cravate. Tous les enfants savent voler, Maddalena. Alors je m'accrochais au meuble de peur de voler malgré moi à travers le couloir. Je crois que c'est son désir de s'envoler qui a poussé mon oncle Fernando travaillait dans un bureau de change, à commencer sa collection de papillons sans rien dire à personne. Peut-être que pour lui aussi, l'hiver était difficile. Les jours sont plus courts, la pluie, l'envie de quelque chose d'inaccessible. Peut-être que les dimanches, où il n'y avait pas de match, lui aussi avait envie de mourir. Il habitait 2 pièces très sombres, garnies de meubles rappelant des cercueils. Et ça ne m'étonne pas qu'il ait eu envie de mourir. Parfois, je pense que tous les gens, même ceux qui collectionnent les papillons, ont envie de mourir. Et que si on nous apprenait à voler, nous partirions illico vers n'importe quel autre pays, un de ces pays sans dimanche d'hiver. Il doit certainement exister des pays sans dimanche d'hiver, où il n'est pas nécessaire de faire du crochet tout l'après-midi, ni de contempler des boîtes d'insectes pour être heureux. Da 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 da. Não queiras gostar de mim sem que eu te peça, nem me des nada que ao fim eu não mereça. Vê se me deitas depois culpas no rosto. Isto é sincero, porque não quero dar-te um desgosto de quem eu gosto. Nem às paredes confesso e até aposto que não gosto de ninguém. Podes julgar, podes chorar, podes sorrir também,
de quem eu gosto. Nem às paredes confesso. Quem sabe se te esqueci. Podes rogar, podes chorar, podes sorrir também. De quem eu gosto. Nem às paredes confesso.
Évoquons un loisir très en vogue à cette époque. Dans la Lisbonne des années 50, un passe-temps passionne les gamins de toutes les classes sociales. Il a le pouvoir d'attirer les filles et de réaliser les rêves. Voici une nouvelle au ton souriant intitulée « Elle, bossu, qu'est-ce que t'as fait au son ?» Le cinéma, ce sera toujours pour moi une baraque près de la mer. Un drap accroché au mur de bois faisant des plis au gré du vent du soir. Des rangées de bancs en bois, le petit trou de la caméra qui vibrait derrière comme un vieux zinc, et traversant la salle depuis le petit trou jusqu'au drap, un rayon de lumière poussiéreuse qui fut l'esprit saint de mon enfance. On entendait les vagues en même temps que le film. Je pouvais fumer sans risquer d'être surpris par mon père. Les adultes en général, allaient savoir pourquoi, n'appréciaient pas beaucoup de s'asseoir pendant 2 heures sur des bancs sans dossier. Il y avait des fillettes de 11 ans très jolies, qui ne semblait pas du tout impressionné par les cigarettes que je chipais à l'oncle Éloi, ni par le parfum de ma mère, dont je m'aspergeais les aisselles en cachette, dans l'espoir de séduire ces sirènes indifférentes, toutes chuchotis, risettes et bulles de chewing-gum, fascinées par des vieux de 15 ans déjà décrépits, déjà barbus, déjà en culotte longue, qui parfois même buvaient de la bière et avaient la permission de rentrer après minuit. Le cinéma, ce sera toujours pour moi une image brouillée sur un drap, devant un public qui pousse des cris de protestation. On ne voit pas le personnage.
Pick your targets carefully.
Ce sera toujours Jeff Chandler sautant de son cheval, tantôt net, tantôt flou,
every shot,
pour dégommer en moins de 2 tout un bataillon d'Indiens. Une chose que moi, contrairement au vieillard de 15 ans qui ne pensait qu'aux revues de femmes nues, quel intérêt peut avoir une revue de femmes nues comparée au Picsou Magazine, une chose que je me serais senti capable de faire avec la plus grande facilité si on m'avait donné le même revolver. Chose que les filles de 11 ans, qui n'avaient Dieu que pour ces lascars buveurs de bière, ne pouvaient pas comprendre. Et là-dessus, le son du film s'évanouissait. Jeff Chandler bougeait ses lèvres dans une bronchite de bobine mêlée aux vagues de la plage. Le public s'impatientait. « Elle bossu, qu'est-ce que t'as fait du son ?» La lumière verte du phare filtrait à travers les planches. On entendait un chalutier s'approcher dans un gargouillement de gasoil. Jeff Chandler tirait dans un silence absolu. Et à chaque coup de feu, les Indiens tombaient, non pas un à un, mais par poignées. Une seule balle tuait au moins 12 Sioux. Sans émettre le moindre gémissement, le public exaspéré. « Elle bossu, qu'est-ce que t'as fait au son ?» Le son revenait une seconde.
I'm not sure this is such a good idea.
Quand Jeff Chandler s'approchait de Maureen O'Hara,
leaving the fort after dark,
tout en plumes et minauderies, puis disparaissait de nouveau au moment du baiser final. Maureen O'Hara devrait être un modèle pour toutes les femmes de 11 ans, car je ne l'ai jamais surprise en train de glousser et encore moins de mâcher du chewing-gum. Le public furieux vociférait. « Elle bossu, qu'est-ce que t'as fait du son ?» Les mots rouges « The End » apparaissaient en vibrant sur le drap. Les lampes de la baraque se rallumaient et j'en profitais pour dégommer tous les vieux de 15 ans que je pouvais avec le colt de mon index braqué. Les parents des fillettes les attendaient pour les ramener à la maison et je restais debout au milieu d'une multitude d'amateurs de femmes nues, plein de l'orgueil hautain des shérifs solitaires tandis que la mer avançait et reculait sur la plage. Mon cœur soudain triste à mourir, languissant après d'irrésistibles mais indifférentes sirènes sans poitrine encore, le visage masqué par des bulles de chewing-gum rose. Quittons la fiction pour la réalité, celle d'une guerre qui s'enlise. Jeune médecin de 30 ans, Antonio Lobo Antunes participe à la guerre d'Angola de 1971 à 1973. Cette guerre d'indépendance aura duré 15 ans, de 61 à 75. En plein conflit, un souvenir d'enfance lui revient, un souvenir de lecture. La nouvelle s'intitule « Au fond de la souffrance, une fenêtre ouverte ». Lorsque j'avais 13, 14, 15 ans et que je lisais tous les livres qui me tombaient sous la main, les livres de mes parents, les livres que je volais et les livres que je pouvais acheter, je revenais, je ne sais pas pourquoi, comme la langue cherchant sans relâche la dent manquante, à ces vers français que j'avais copiés sur un cahier, Il y a toujours au fond de la souffrance une fenêtre ouverte, une fenêtre éclairée. Puis je fermais le cahier et j'allais fumer en cachette sous le citronnier du jardin. Je lisais les livres que je volais à mes grands-parents et à mes oncles et ceux que je pouvais acheter. Puis je revenais à mon cahier. Il y a toujours au fond de la souffrance une fenêtre ouverte, une fenêtre éclairée. Je m'asseyais sur les marches de pierre, puis promenais mon regard sur le figuier. Le puits scellé par ma mère pour que ses enfants ne tombent pas dedans, et la fenêtre de M. Florindo, cordonnier de son état. Je récitais ces vers sans les comprendre, ignorant ce que le mot « souffrance » signifiait. De la même façon que plus tard à l'hôpital, je voyais les moribonds contempler avec effroi leurs propres mains jusqu'à ce que je perde le cahier et oublie le poème. Ou plutôt, je croyais l'avoir oublié. Jusqu'à ce qu'il me revienne en Angola. Dans les terres du fin du monde, à 10 000 km de Lisbonne et 13 000 de Moscou, comme l'annonçait une pancarte accrochée au barbelé, au milieu de la mort, de la désolation, de la misère et de cette erreur monumentale dont Ernesto Melo Antunes m'avait parlé dans une lettre que la censure militaire n'a pas ouverte. Il m'est revenu en Angola dans les terres de fin du monde à la tombée du soir. J'étais dans ma chambre, on appelait ça notre chambre, quand soudain une voix de vendeur de journaux lisboète s'est mise à crier les titres des journaux du soir et le bourbier de fusils et de caisses où je vivais s'est transformé en une rue de la Baïcha. La voix annonçait les journaux du soir, annonçait l'Eva. Demandez l'Eva do Natal, demandez. Tout comme ces vendeurs de la procession de la fête Dieu annonçaient le verre et la bougie, 10 centavos. Le verre et la bougie, 10 centavos. La procession de la fête Dieu à laquelle j'avais participé en tant qu'enfant de cœur, entouré d'angelots aux ailes moisies, de petites vieilles en larmes. Soudain, au milieu de la nuit, les journaux de Lisbonne, l'Eva. Demandez l'Eva do Natal, demandez. Soudain, couvrant le bruit du groupe électrogène fonctionnant au gasoil, les vendeurs de la procession de la fête Dieu. Le verre et la bougie, 10 centavos. Le verre et la bougie, 10 centavos. Soudain, ma ville, sur ce sable de fin du monde, en Angola, je suis allé à la porte de ma chambre, qui n'était qu'une tente, je l'appelais ma chambre pour me persuader que j'en avais une, et adossé au mât sans drapeau, un petit soldat, seul, ses doigts devant la bouche. Il y a toujours au fond de la souffrance une fenêtre ouverte, une fenêtre éclairée, qui criait notre ville à nous deux, aux sentinelles ébahies. Au cours des périodes les plus difficiles en Afrique, où tout s'embrouillait au fond de soi, la douleur dépassant les larmes, après les mines, les embuscades, les garçons aux jambes arrachées, les caisses de nourriture larguées par des avions qui ne pouvaient pas atterrir et que nous disputions aux chiens, je faisais venir le petit soldat derrière la soute, derrière ce qui restait des colonnes de la maison du chef de poste, Lisbonne, 10 000 kilomètres, Moscou, 13 000. Je lui demandais « Les journaux, gamin ?» Il plaçait ses doigts devant la bouche, commençait à crier, et une demi-heure plus tard, nous nous retrouvions tous deux apaisés, car il y a toujours au fond de la souffrance une fenêtre ouverte, une fenêtre éclairée. Je revoyais la maison de mes parents, le citronnier, le puits, les marches de pierre, l'ombre de l'acacia, la photo de ma mère encore jeune avec son collier de perles, ces grains qui renferment le fond de la mer dans leur pâle sourire. On coupait le groupe électrogène. Je disais au petit soldat, ça suffit. Je traversais un pan de nuit et j'entrais dans le salon. On appelait salon un amas de briques et de foin sec, où les sous-lieutenants jouaient aux cartes sur un tonneau servant de table. Je m'allongeais sur un autre tonneau servant de fauteuil et il n'y avait plus de guerre, plus de blessés, plus de coups de feu. Seulement un enfant de cœur qui descendait vers la cathédrale, un bénitier d'eau sainte à la main, entouré d'angelots aux ailes moisies et de petites vieilles en larmes.
Personne n'est préparé pour mourir. Personne.
Antonio Lobo Antunes.
Personne conçoit la mort et nous continuons de vivre comme si nous étions éternels. Quand vous avez 20 ans, vous pensez, j'ai 50 ans devant moi, ça ne va jamais passer. Quand vous dites, j'ai encore 10 ans, et 10 ans, ça ne va jamais passer. Et pourtant, vous clignez les yeux, et vous avez 70 ans. Tout se passe d'une façon tellement rapide. Et pourtant, dans notre tête, nous vivons en fonction de petites éternités, élastiques. Par exemple, quand on se réveille le matin, et le réveil matin, il sonne, on pense encore 5 minutes. Et ces 5 minutes, c'est une éternité aussi. Ce n'est pas 5 minutes du tout. C'est toute une éternité jusqu'à ce que je me réveille. Donc notre rapport avec le temps est très curieux de ce point de vue-là.
Des années plus tard, retrouvons le narrateur à l'âge des bilans. À 50 ans, l'écrivain se souvient de l'hôpital où il a travaillé à ses débuts. Mais surtout, c'est l'enfance qui rejaillit comme une source intarissable. Voici cette nouvelle, comme une déclaration d'amour à la vie. Elle s'intitule « Avant que la nuit tombe ». Des circonstances malvenues m'ont contraint ces dernières semaines à me pencher sur le passé et le présent et à oublier le futur. Surtout le passé parce que le futur se rétrécit toujours plus. Et je dis surtout le passé car même le présent s'est changé en passé. Des souvenirs que je croyais perdus et qui refluent à mon insu. Les dimanches de foire à Nélas, une bague à l'emblème du Benfica, que moi à 5 ans je trouvais superbe et mes parents atroces, qu'à 50 ans je continue de trouver belle et horrible à la fois. Et je pense qu'il est temps que je la porte. Seule fantaisie maintenant que je n'ai plus de plaisir. Je veux ma bague à l'emblème du Benfica. Je veux ma grand-mère vivante. Je veux notre maison de la Bérin. Tout ce que j'ai laissé s'enfuir et qui me manque. Je veux courir dans les bois du Zerebello. Je veux jouer au ping-pong avec mon frère Jean. Je veux lire Jules Verne. Je veux aller voir Costa Pereira défendre un pénalty de Didi. Je veux des crèmes aux œufs. Je veux des beignets de morue avec du riz à la tomate. Je veux retourner à la bibliothèque du lycée pour lire en cachette La Rousse du Philhar de l'Almeida. Je veux retomber amoureux de la femme du pharaon dans les 10 commandements que j'ai vus à 12 ans et à laquelle je suis resté fidèle tout un été. Je veux ma mère. Je veux mon petit frère Pedro. Je veux aller à la droguerie acheter du papier de 35 lignes pour écrire des vers laborieusement comptés sur le bout des doigts. Je veux rejouer au hockey sur glace. Je veux être le plus grand de la classe. Je veux cacher des billes, œil de bœuf, œil de chat, Agathe et Callot. Je veux entendre mon ami Fias raconter des films à l'école de Monsieur André parlant du garçon, de la fille et de l'ami du garçon. Des films que je n'ai jamais vus sinon à travers les évocations de Frias. Manuel, Marie, Camarete, Frias, qu'es-tu devenu? Je veux que mon grand-père me dessine un cheval. Je veux monter dessus et m'en aller d'ici. Je veux sauter sur mon lit. Je veux fumer en cachette. Je veux lire le Mundo de Aventuras. Je veux être Cisco Kid et Mozart en même temps. Je veux des glaces Santini. Je veux une lampe de poche pour Noël. Je veux des parapluies en chocolat. Je veux que ma tante Gogo me donne la béquée. Ouvre ta bouche, Tonio. Je veux une coupelle de lupin. Je veux être Sandokan souverain de Malaisie. Je veux porter des culottes longues. Je veux descendre des trams en marche. Je veux être contrôleur à la Caris. Je veux jouer de toutes les trompettes en plastique du monde. Je veux mes figurines de joueurs de foot. Je ne veux pas d'hôpitaux, pas de malades, pas d'opérations. Je veux du temps pour reprendre courage et dire à mes parents que je les aime. Je ne sais pas si je pourrais dire à mes parents que je les aime avant que la nuit ne tombe, messieurs, avant que la nuit tombe pour toujours. Suivons le narrateur dans une rue de Lisbonne aujourd'hui. Le voici se rendant chez un ami, seul capable de lui apporter un peu de réconfort. Un certain José Ribeiro, collectionneur de livres, qui habite un sous-sol rempli d'ouvrages rares. Hommage à un amoureux du passé. N'était José Ribeiro, je détesterais l'Avenida do Uruguay. Des immeubles et encore des immeubles ont poussé là où enfant j'allais avec la servante chercher du lait dans une ferme. Des immeubles et encore des immeubles ont poussé sur mon passé. On a étouffé avec des boutiques et pâtisseries ces lieux où je fus heureux autrefois. On a détruit une enfilade de maisons habitées par des gens qui n'étaient pas de ma famille et qui pourtant le sont maintenant. Le vieux général en mitouflé dans sa couverture, la dame féroce, minuscule, électrique, avec ses chiens féroces, minuscules et électriques, qui m'apprenait l'anglais au milieu des aboiements, Mémé Gallo et sa colossale, tremblante collection de chats de verre, ses poèmes de Gomez Leal, sa cuisinière borgne, Rosa, des portails de domaine, des piliers, des lopins de terre, des bougainvilliers, et de sombres vestibules moisissant dans un perpétuel hiver, imperméable au soleil. Un monsieur à cheveux très blancs alité, mais la mort n'existait pas. Pendant longtemps, la mort n'a jamais existé. La mort se résumait à des cartes de petits seins ovales dans le missel de ma mère. J'étais éternel. À quel moment, mon Dieu, ai-je donc cessé d'être éternel, moi qui le fus tant d'années? Nous voilà, José Ribeiro et moi, au sous-sol, furetant dans les volumes, 3 ou 4 mètres au-dessous du niveau du sol, courbés comme des mineurs, écartant, empilant, découvrant. Celui-là, je ne l'ai pas. Moi, je ne le connais pas. Je ne l'ai pas lu. Chargés de sacs comme des Pères Noël, nous remontons à la surface, tout heureux. Les immeubles de l'Avenida do Uruguay disparaissent et j'entends les troupeaux de notre enfance, jusqu'au moment où nous nous séparons. L'absence de José Ribeiro me rendant à nouveau adulte, sans charme ni passion. Un pauvre adulte, dans une auto cabossée, attendant la leçon d'enfance que me donne son regard. Et voici pour conclure les dernières réflexions de l'écrivain sur le temps qui passe. Père de trois filles, divorcé, Antonio Lobo Antunes vit aujourd'hui comme un loup solitaire. Il s'adresse ici aux femmes de sa vie, qui apparaissent dans ses premiers romans. Par la magie des mots, le voilà qui remonte le cours de son existence, à la rencontre de ses servantes qui ont bercé son enfance. Je suppose qu'avant de me demander ce que j'ai fait de ma vie, je devrais me demander ce que j'ai fait de la vie des autres. Comme je ne me sens en paix que lorsque je suis en guerre avec moi-même, je ne leur ai sans doute apporté ni sécurité ni bonheur. Ainsi, ce n'est pas facile d'être la femme d'un homme ou la fille d'un père qui sème derrière lui des romans comme des petits cailloux afin de retrouver son chemin au retour, où m'attendent ceux qui m'aiment, tandis que je rétrécis au loin jusqu'à disparaître au détour du chemin, continuant de sortir de ma poche des livres que je ne retrouverai plus. Je suis le seul criminel qui ne reviendra plus sur le lieu de son crime, et si un jour j'y revenais, je le trouverais vide comme une foire désertée, le sol jonché de mégots, les lumières éteintes et des papiers balayés par le vent qui souffle où rien n'existe. Si la politique est le métier des choses inachevées, ou l'art de choisir entre divers inconvénients, je n'ai apporté aux autres que le sentiment d'une précarité ancrée dans la volonté définitive de rester patiemment inquiet. Je me cherche entre les mots pour savoir qui je suis, et jamais je ne ferai bonne figure comme fonctionnaire de la modestie, d'autant que la seule forme de sérieux que je conçoive est celle qui permet toutes les fantaisies. Ne m'attends pas ce soir car la nuit sera noire et blanche, me semble une bonne formule. Ne m'attends pas ce soir. Je sombre peu à peu dans la nuit des miroirs, flaque de pluie qui ne reflète plus rien, rien sinon le poids tremblant de l'absence. Et je continue à chercher dans les herbiers des sourires que j'ai tant aimés, avec l'espoir qu'on me pardonne de ne pas suivre le droit chemin et de ne pas écrire des romans d'aventure où la barbiche de D'Artagnan est dessinée au bouchon brûlé et où les cheveux qui galopent ne sont que deux clowns recouverts d'un drap, claudiquant vers la sortie. Et tout cela me revient en un souffle par les veines des coquillages, lorsque j'en approche un de mon oreille, et que j'écoute non pas le bruit de la mer, mais la voix des hôtesses dans les aéroports étrangers, m'emportant avec elles là où personne ne pourra me trouver, dans ce berceau de l'été 43, à Benfica, Lisbonne, à l'ombre d'un acacia sous un bras vigilant.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia avec à la technique Éric Boisset. Elle a été préparée par Estelle Gap, Périne Malinge et Claire Tesser. Bonne soirée et à la semaine prochaine.